Haïti, quand une propriété esclavagiste devient une dette publique. Le cas d'Haïti est emblématique, non seulement car il s'agit de la première abolition de l'époque moderne, à la suite d'une révolte d'esclaves victorieuse, et de la première indépendance obtenue par une population noire face à une puissance européenne, mais aussi car cet épisode se termina par une gigantesque dette publique qui contribua fortement à miner le développement d'Haïti au cours des deux siècles suivants. Car si la France accepta finalement de reconnaître l'indépendance du pays en 1825 et de mettre fin à ses menaces d'invasion de l'île par les troupes françaises, c'est uniquement parce que Charles X avait obtenu du gouvernement haïtien que ce dernier accepte de payer à la France une dette de 150 millions de francs or afin de dédommager les propriétaires d'esclaves pour leur perte de propriété. Le gouvernement de Port-au-Prince n'eut pas véritablement le choix, du fait de la supériorité militaire évidente de la France, de l'embargo imposé par la flotte française dans l'attente d'un règlement et du risque réel d'occupation de l'île. Il est important de se rendre compte de ce que représente cette somme de 150 millions de francs or fixée en 1825. Elle a été calculée par référence à la profitabilité des plantations et à la valeur des esclaves d'avant la Révolution au terme de longues négociations. Cette somme représente environ 2% du revenu national français de l'époque, soit l'équivalent de plus de 40 milliards d'euros aujourd'hui, si l'on considère une même proportion du revenu national de 2018. La somme n'est donc pas incomparable au montant des compensations versées aux propriétaires britanniques à la suite de la loi de 1833, dans la mesure où les esclaves émancipés à Haïti étaient moitié moins nombreux que la totalité des esclaves britanniques de 1833. Mais le plus important est surtout de comparer cette somme aux ressources dont disposait l'île à l'époque. Or, des recherches récentes ont démontré que ces 150 millions de francs or représentaient plus de 300% du revenu national d'Haïti en 1825, autrement dit plus de 3 années de production. Le traité prévoyait en outre un versement rapide de l'intégralité de la somme en 5 ans à la Caisse des dépôts et consignations, institution bancaire publique créée à la Révolution et toujours existante aujourd'hui, à charge pour cette dernière de reverser les sommes aux propriétaires d'esclaves spoliés, ce qu'elle fit, et à charge pour le gouvernement haïtien de se refinancer auprès de banques privées françaises afin d'étaler le remboursement, ce qu'il fit également. Il est essentiel de bien réaliser l'importance des montants en jeu. Avec un refinancement à un taux d'intérêt annuel de 5%, typique de l'époque, et sans même prendre en compte les juteuses commissions que les banquiers ne manquèrent pas d'ajouter au fur et à mesure des multiples péripéties et renégociations qui allaient marquer les décennies suivantes. Cela signifiait que Haïti aurait dû payer chaque année l'équivalent de 15% de sa production indéfiniment, simplement pour acquitter les intérêts de sa dette, tout cela sans même commencer à rembourser le principal. Certes, les propriétaires français avaient beau jeu de faire remarquer que l'île rapportait bien davantage à l'époque de l'esclavage. De fait, les estimations qu'il est possible de faire aujourd'hui indiquent qu'environ 70% de la production de Saint-Domingue, entre 1750 et 1780, était réalisée au bénéfice des planteurs et des propriétaires français, soit à peine plus de 5% de la population de l'île, ce qui constitue un exemple particulièrement extrême et bien documenté d'extraction coloniale caractérisée. Il reste qu'il était difficile de demander à un pays théoriquement souverain de continuer de verser indéfiniment 15% de sa production à ses anciens propriétaires, tout cela parce qu'il avait voulu cesser d'être esclave. Le tout se déroulait en outre dans un contexte où l'économie de l'île avait beaucoup souffert des affrontements révolutionnaires, des mesures d'embargo et du fait qu'une bonne partie de sa production sucrière s'était relocalisée à Cuba, qui continuait d'être esclavagiste, et où une partie des planteurs s'étaient réfugiés, parfois en emmenant avec eux certains de leurs esclaves au moment de l'insurrection. L'insertion économique régionale d'Haïti était par ailleurs compliquée par le fait que les États-Unis, inquiets du précédent haïtien et peu enclins à la sympathie pour les révoltes d'esclaves, refusèrent de reconnaître le pays et de traiter avec lui jusqu'en 1864. La dette haïtienne fit l'objet de multiples et chaotiques renégociations, mais elle fut pour une large part payée. En particulier, Haïti a réalisé en moyenne des excédents commerciaux très significatifs tout au long du 19e et jusqu'au début du 20e siècle. À la suite du tremblement de terre de 1842 et de l'incendie de Port-au-Prince qui s'ensuivit, la France consentit certes à un moratoire sur les intérêts de 1843 à 1849. Mais les paiements reprirent leur cours normal sitôt après, et les recherches récentes indiquent que les créditeurs français sont parvenus à extraire du pays l'équivalent de 5% du revenu national haïtien par an en moyenne de 1849 à 1915, avec de fortes variations suivant les périodes et l'état politique du pays. L'excédent commercial de l'île atteignit souvent 10% du revenu national et tomba parfois à des niveaux proches de zéro, voire légèrement négatifs, avec une moyenne d'environ 5% sur cette période. Il s'agit là d'un paiement moyen considérable sur une durée aussi longue. Il était néanmoins inférieur à ce qui était impliqué par l'accord de 1825, ce qui conduisit les banques françaises à se plaindre régulièrement de ce mauvais payeur. Avec l'appui du gouvernement français, elles décidèrent finalement de céder le reste de leurs créances aux États-Unis, qui occupèrent Haïti de 1915 à 1934 pour y rétablir l'ordre et sauvegarder leurs propres intérêts financiers. La dette de 1825 fut officiellement éteinte et définitivement remboursée au début des années 1950. Pendant plus d'un siècle, de 1825 à 1950, le prix que la France voulut faire payer à Haïti pour sa liberté eut surtout pour conséquence que le développement économique et politique de l'île fut surdéterminé par la question de l'indemnité, tantôt violemment dénoncée, tantôt acceptée avec résignation, au gré de cycles politico-idéologiques interminables. Cet épisode est fondamental, car il illustre la continuité entre les logiques esclavagistes, coloniales et propriétaristes, ainsi que les ambiguïtés profondes de la Révolution française face aux questions d'inégalité et de propriété. Au fond, les esclaves haïtiens sont ceux qui avaient pris le plus au sérieux le message d'émancipation révolutionnaire, et ils en ont payé le prix fort. Cet épisode rappelle également le lien étroit et persistant entre esclavage et dette. Dans l'Antiquité, l'esclavage pour dette était une pratique répandue, et on trouve trace dans la Bible, comme dans les stèles mésopotamiennes et égyptiennes, d'interminables cycles d'accumulation de dettes et de mise en esclavage, ponctués parfois de phases d'annulation de créances et de libération des esclaves afin de rétablir la paix sociale. Dans la langue anglaise, l'importance du lien historique entre esclavage et dette est illustrée par le terme « bondage », qui renvoie aux relations de dépendance caractéristiques de la condition servile ou esclavagiste. Le « bond » désigne ainsi à partir du XIIIe siècle à la fois les liens légaux et de nature financière entre un créditeur et un débiteur et les liens de dépendance entre un propriétaire et un paysan. Les systèmes légaux qui se mettent en place au XIXe siècle finissent par abolir l'esclavage en même temps qu'ils mettent fin à la prison pour dette et surtout à la transmission intergénérationnelle de la dette. Il existe toutefois une forme de dette qui peut toujours se transmettre à travers les générations et qui permet ainsi de faire porter une charge financière potentiellement sans limite sur les descendances futures. Il s'agit de la dette publique, comme le montre la dette post-esclavagiste imposée à Haïti de 1825 à 1950, et ainsi que nous le verrons avec de nombreuses dettes coloniales au XIXe et XXe siècle, comme avec les dettes du début du XXIe siècle. L'abolition de 1848, compensation, atelier de discipline et engagé. Venons-en maintenant à l'abolition de 1848. À la suite de la loi d'abolition britannique votée en 1833 et mise en application de 1833 à 1843, le débat sur l'abolition devient omniprésent en France. Il reste encore plus de 250 000 esclaves dans les colonies françaises, en particulier en Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, alors que ceux de Jamaïque et de Maurice sont libres, et on craint que cela n'inspire de nouvelles révoltes. Pourtant, le débat achoppe encore et toujours sur la question de la compensation. Pour les propriétaires et leurs soutiens, il est inenvisageable que l'on puisse les priver de leurs droits de propriété sans une juste indemnité. Mais l'idée d'une prise en charge intégrale par le contribuable et le trésor public, qui a déjà dû financer en 1825 le milliard des immigrés, les nobles ayant perdu loyer et propriété entre 1789 et 1815, ne paraît pas totalement juste. Ne faudrait-il pas mettre également à contribution les esclaves, qui seront après tout les premiers bénéficiaires de la mesure ? Alexandre Moreau de Jonnès, bien connu pour les multiples matériaux statistiques sur les esclaves et leurs maîtres, qu'il avait entrepris de compiler dans les diverses colonies à partir des recensements et enquêtes administratives depuis le début du XVIIe siècle, et abolitionniste convaincu, propose en 1842 que les esclaves remboursent la totalité de l'indemnité, en effectuant des travaux spéciaux non rémunérés pour la durée nécessaire. Il insiste sur le fait que cela permettra en outre d'apprendre aux esclaves le sens du travail. Certains font remarquer que ce remboursement et cette période transitoire risquent de durer longtemps et qu'une telle mesure revient à ne pas émanciper les esclaves. On se contente de transformer la condition servile en dette perpétuelle, de la même façon que les anciennes corvées furent transformées en loyers lors de la Révolution. Tocqueville croit avoir trouvé la combinaison parfaite quand il propose en 1843 que la moitié de l'indemnité soit versée aux propriétaires sous forme de rente sur l'État, donc en accroissant la dette publique payée par la masse des contribuables, et la seconde moitié par les esclaves eux-mêmes, qui pendant 10 ans seront employés par l'État à bas prix afin de reverser la différence aux propriétaires. Ainsi, la solution sera-t-elle équilibrée entre toutes les parties prenantes, puisque les propriétaires eux-mêmes devront au bout de 10 ans payer l'élévation du prix de la main-d'œuvre liée à l'émancipation. Les contribuables, les esclaves et les propriétaires seront donc mis à contribution de façon juste. La commission parlementaire, présidée par De Breuil, parviendra à une solution peu différente. Personne dans ces débats, qui, il est vrai, se déroulent pour l'essentiel dans des enceintes propriétaristes, à peine plus de 2% des hommes adultes ont le droit de vote à la Chambre des députés entre 1830 et 1848, et ils doivent choisir leurs représentants parmi les 0,3% les plus fortunés, ne semble sérieusement envisager que ce soit les esclaves qui soient indemnisés pour les siècles de travail non rémunérés. Cela aurait par exemple pu leur permettre de devenir propriétaires d'une partie de la terre sur laquelle ils étaient esclaves, afin qu'ils puissent dorénavant travailler pour eux-mêmes, comme cela finira par se produire avec les paysans irlandais et les réformes agraires mises en place à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, avec certes de généreuses compensations publiques versées aux lords, tout du moins jusqu'à l'indépendance. En tout état de cause, les débats restent bloqués au milieu des années 1840, car les propriétaires refusent l'émancipation et menacent de s'y opposer, avec leurs milices s'il le faut. Ce n'est qu'après la chute de la monarchie et la proclamation de la Deuxième République en 1848 que la commission Schœlcher aboutira à la loi d'abolition, avec au passage une compensation des propriétaires certes un peu moins généreuse que la loi britannique de 1833, mais un partage des coûts qui est finalement comparable à celui envisagé par Tocqueville. Les propriétaires reçoivent une indemnité calculée sur la base de la moitié environ de la valeur envisagée auparavant, ce qui est déjà très substantiel. La valeur de référence est de 600 francs par esclave, soit entre 4 et 6 années de salaire pour une main-d'œuvre livre équivalente. Outre l'indemnisation des propriétaires, les décrets d'abolition promulgués le 27 avril 1848 incluent de surcroît des articles réprimant le vagabondage et la mendicité et prévoyant l'ouverture d'ateliers de discipline dans les colonies, qui visent à garantir aux planteurs une main-d'œuvre bon marché. Autrement dit, non seulement aucune indemnisation des esclaves et aucun accès à la propriété aux terres ne sont envisagés, mais l'émancipation Schœlcher s'accompagne d'un paiement aux propriétaires et d'un régime de travail quasi forcé permettant de garder les ex-esclaves sous le contrôle des planteurs et des autorités de l'État, alliés en pratique aux planteurs. À la Réunion, le préfet précise immédiatement les modalités d'application. Les anciens esclaves doivent présenter un contrat de travail de long terme, soit comme ouvriers dans les plantations, soit comme employés domestiques, faute de quoi ils seront arrêtés pour vagabondage et envoyés aux ateliers de discipline prévus par les textes de loi édictés à Paris. Pour bien comprendre le contexte de l'époque, il est important de préciser que ce type de législation, où l'État se mettait de facto au service des employeurs et des propriétaires pour imposer une forte discipline au travail et maintenir les salaires au strict minimum, était alors courante et prit simplement un nouvel essor dans les colonies après l'abolition de l'esclavage. En particulier, pour remplacer les esclaves émancipés, dont beaucoup refusèrent de continuer de travailler pour leurs anciens maîtres, les autorités britanniques et françaises développèrent de nouveaux systèmes permettant de faire venir de la main-d'œuvre plus lointaine, en particulier en provenance d'Inde, dans le cas de la Réunion et de Maurice, sous forme de contrats établis avec les engagés, dans le cas français, ou les indentured workers, dans le cas anglais. L'engagement consistait pour des travailleurs indiens à rembourser sur une longue période, par exemple pendant 10 années, le prix de la traversée aux employeurs qui l'avaient prise en charge, en leur reversant une forte part du salaire obtenu. En cas de performance insuffisante au travail, ou pire encore d'indiscipline, l'obligation de reversement pouvait être prolongée pour 10 années supplémentaires ou davantage. Certaines archives judiciaires conservées en particulier à Maurice et à La Réunion montrent clairement que, dans un contexte où le système juridictionnel était fortement biaisé en faveur des employeurs, un tel régime a conduit à des formes d'exploitation et d'arbitraire qui sont certes différentes de l'esclavage pur et dur, mais qui n'en sont pas infiniment éloignées. Les sources disponibles montrent également comment les employeurs et les tribunaux négocient en quelque sorte la transformation du régime de discipline au travail. Les propriétaires acceptent progressivement de réduire l'usage des châtiments corporels qui avaient cours sous l'esclavage, mais à la condition que les autorités légales les aident à imposer des sanctions financières produisant les mêmes effets. Il faut aussi insister sur le fait que ce type de régime légal très défavorable aux travailleurs et aux pauvres en général était également très répandu au sein des marchés du travail européen. En 1885, la Suède avait encore une loi contraignant à une obligation de travail forcé ceux qui n'avaient pas d'emploi et n'avaient pas de propriété suffisante pour prétendre en vivre, et punissant d'arrestation les contrevenants. Ce type de législation se retrouve dans toute l'Europe du XIXe siècle, notamment au Royaume-Uni et en France, mais elle est particulièrement dure et s'applique exceptionnellement longtemps dans le cas suédois, ce qui est cohérent avec ce que nous avons vu au sujet du propriétarisme exacerbé en vigueur dans le royaume de Suède à la fin du XIXe siècle. En l'occurrence, ce régime légal s'apprêtait à être radicalement transformé dans de nombreux pays européens, et particulièrement en Suède, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, avec la mise en place du droit syndical, du droit de grève, des négociations collectives, et ainsi de suite. Dans le cas des colonies, et pas seulement des anciennes îles esclavagistes, la transition prit plus longtemps. Nous verrons dans le prochain chapitre que des formes parfaitement légales de corvée et de travail forcé étaient toujours en vigueur au XXe siècle dans l'Empire colonial français, en particulier pendant l'entre-deux-guerres et quasiment jusqu'aux décolonisations.